France Culture. France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Ils se sont vus jeudi, et comme il se doit, chacun crie victoire. Les présidents américains et chinois ont en tout cas décidé d'une trêve dans la confrontation entre les deux plus puissantes économies mondiales. Près d'un an depuis sa réélection, Donald Trump savoure les résultats de sa tournée en Asie du Sud-Est, parfaite illustration de sa conception d'une politique étrangère qui est d'abord une politique commerciale. En Malaisie, comme au Japon et en Corée du Sud, le maître du deal a renégocié à la baisse certains droits de douane gigantesques qu'il avait imposés aux économies du Sud-Est asiatique, obtenant en échange minerais, terres rares et promesses d'investissement aux États-Unis. Quels ont été jusqu'ici les résultats du choc infligé depuis avril dernier aux échanges internationaux? L'économie américaine en a-t-elle bénéficié et qui paie vraiment la facture? Ironie du calendrier, cette politique tarifaire pourrait être remise en cause. Mercredi prochain, la Cour suprême doit examiner la légalité de l'argument d'urgence économique brandi à l'époque par l'administration pour contourner le Congrès dont les compétences sont systématiquement bafouées. Comment ces 9 juges, dont 6 ont été nommés par Donald Trump lui-même, vont-ils se dépêtrer d'un litige pesant au moins 80 milliards de dollars? Le président considère volontiers que la plus haute juridiction de son pays est à sa botte. Elle a jusqu'à présent entériné la plupart de ses initiatives, étendant considérablement le champ du pouvoir exécutif. Depuis 9 mois, l'édifice institutionnel américain vacille, la guerre judiciaire bat son plein. Quels sont les ressorts de cette révolution populiste que Donald Trump entend incarner à son avantage et à l'avantage de son camp? Le gouvernement fédéral est à l'arrêt, faute d'un accord sur le budget, entre républicains vassalisés et démocrates déboussolés. Mardi prochain, la ville de New York doit élire son maire. Le favori, Zohran Mamdani, à l'extrême gauche du Parti démocrate, nourrit déjà la vindicte MAGA et embarrasse les dirigeants démocrates traditionnels. Le populisme de gauche serait-il la seule réponse possible au trumpisme? C'est ce qu'on va comprendre ce matin grâce à vous, Anne Desine. Vous êtes juriste, professeur des universités à l'Université Paris-Nanterre. Elisa Schell, professeur agrégé de sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre également. Florence Pisani, merci d'être avec nous. Vous êtes chef économiste de Candriam et vous enseignez à l'Université Paris-Dauphine. Et j'accueille aussi Agathe Demarais, qui dirige le programme Géoéconomie et Technologie au Conseil européen pour les relations internationales. Elisa Schell, je commence avec vous, puisqu'on arrive pratiquement au premier anniversaire de l'élection de Donald Trump pour un deuxième mandat. Et en fait, on a l'impression de ce fracas continu à l'extérieur des États-Unis, mais aussi, bien sûr, à l'intérieur. Comment expliquer que cette sorte de tornade Trump s'exprime d'abord sur le plan judiciaire?
Alors, cette tornade Trump se déploie d'abord dans l'arène judiciaire parce que le système juridique américain le permet. Et ça, c'est une chose très importante, c'est-à-dire que Donald Trump ne bouleverse pas le fonctionnement des institutions, la judiciarisation très forte des rapports sociaux et des rapports politiques, la politisation de la justice, mais il va le pousser à son maximum. Donc Donald Trump veut aller vite, ça fait partie de son style populiste qu'il a vendu pendant son élection. Les problèmes sont complexes pour les Américains, mais moi, Donald Trump, je vais vous apporter des solutions simples et rapides. Et il le fait aussi dans la justice, où il multiplie les procès, mais où aussi les procès se multiplient contre les décisions qu'il a prises. Donc on a en réalité une véritable guerre judiciaire entre Donald Trump qui va intimider soit des républicains qui n'ont pas été assez loyaux, soit des démocrates qui ont engagé des poursuites contre lui, soit des médias qui auraient diffamé sa réputation pour une raison ou pour une autre. Et là, il réutilise son capital d'homme d'affaires à tout point de vue, puisque dans le milieu des affaires, c'est une technique extrêmement courante pour affaiblir ou intimider ses adversaires. Mais Donald Trump ne gagne pas non plus tout le temps, c'est-à-dire qu'il perd aussi des procès. Il y en a eu à peu près 200 qui ont été engagés depuis le mois de janvier, et il en perd aussi par dizaines. Et la Cour suprême ne peut pas juger en sa faveur sur tous ces procès, puisque la Cour suprême ne juge qu'un nombre limité de cas par an et ne répond pas à toutes les requêtes. Alors bien sûr, hein, c'est cette Cour suprême est du côté de Donald Trump. Alors tous les juges tous les juges à tendance républicaine n'ont pas été nommés par Donald Trump, mais en tout cas, effectivement, ils ont pris des décisions essentielles qui favorisent Donald Trump. Par exemple, la terminaison de l'injonction universelle, c'est-à-dire la portée d'une décision d'un juge dans une cour d'un État, ne peut pas impacter le pays dans son entier. Donc ça veut dire qu'une décision suspendue au niveau des États, ce qui fait partie des armes des démocrates aussi pour lutter contre Trump, parce que les démocrates se battent contre les mesures de Donald Trump, eh bien peut être suspendue au niveau d'un État, mais ça n'a pas de valeur pour l'ensemble du territoire.
Ce qui est évident, Anne Desine, c'est qu'il y a multiplication des procédures d'urgence déclenchées par la Maison-Blanche, qui n'hésite pas à aller chercher une loi obscure que la plupart des juristes, sauf vous, sûrement, avaient oublié depuis 1700 et des poussières, 92, 93. Et en fait, à chaque fois, l'idée, c'est la patrie est en danger, la sécurité nationale est en jeu, et il faut aller vite.
Oui, il utilise l'urgence à deux niveaux. Un, en invoquant des lois de façon à contourner le Congrès. Vous avez bien dit tout à l'heure, les droits de douane, ça relève du Congrès. Et lui va dire, mais comme il y a une urgence nationale, j'invoque cette loi IEPA qui dit, en cas d'urgence à l'international, le président peut agir. Si ce n'est que cette loi ne prévoit pas du tout ce type de situation, c'est un embargo et certainement pas pour un déficit commercial qui n'est pas une urgence, vu qu'il y a des déficits commerciaux depuis 40 ans. Dans le cas des expulsions, c'est une autre loi, oui, qui date du XVIIIe siècle, la Alien Enemy Act, qui n'est pas justifiée non plus. Et donc, à chaque fois qu'il prend ces décisions sont contestées devant des juridictions, et à chaque fois, la juridiction de première instance va suspendre ou retoquer. Et souvent, elle va être confirmée par la Cour d'appel. Et c'est là qu'il y a un autre élément d'urgence. Il existe dans la procédure américaine une possibilité de saisir la Cour suprême en procédure d'urgence, lorsqu'il y a vraiment urgence. Mais à titre d'exemple, les deux mandats de George W. Bush plus les deux mandats d'Obama, soit 18 ans, il y a eu 4 saisines comme cela. Et là, Trump, durant le premier mandat, l'a fait 41 fois, et depuis qu'il a été élu, déjà 29. Mais ce qui est le plus inquiétant, et donc il dit à la Cour suprême, mais vous n'allez pas laisser cette petite juridiction de première instance me bloquer, etc. Mais que la Cour suprême, elle n'est absolument pas obligée d'accepter ces recours en urgence. Simplement, non seulement elle le fait, presque à chaque fois, mais presque à chaque fois, elle donne raison au président et elle solidifie une théorie fumeuse inventée par les républicains, qui est la théorie de l'exécutif unitaire. Le président peut tout faire, et surtout dans la branche exécutive. Ce qui, en matière de droit de douane, n'est absolument pas le problème, puisque là, ce sont les rapports avec le Congrès, c'est la séparation des pouvoirs qui est en jeu.
Mais avant d'essayer de comprendre cette histoire de droit de douane sur le plan juridique, que la Cour doit examiner donc mercredi prochain, en principe, comment expliquez-vous cette suggestion d'une Cour qui est quand même dans le système américain, qui est un système très différent du nôtre, évidemment. C'est un système fédéral, d'abord, et puis avec des juges nommés à vie, qui sont les juges fédéraux. Mais comment expliquer la manière dont cette Cour semble accepter l'interprétation que Donald Trump et son premier cercle font de la Constitution américaine?
Alors, il y a un élément interne, un élément externe. L'élément interne, c'est que le président de la Cour, le Chief Justice, est conservateur, mais il est très attaché à la légitimité de la Cour. Et avant la nomination de Barrett, en 2020, il était en position de voter avec les progressistes, qui étaient encore quatre, pour éviter un dérapage trop à droite. Maintenant qu'il y a six juges, et ce qui est terrible, c'est que maintenant aux États-Unis, on parle de six juges républicains. Or, ils ne sont pas censés être républicains. Mais ils sont extrémistes, réactionnaires, ce qu'on veut. Six, et donc, le chief ne peut plus rien faire, et il vote avec la majorité, et on a ce dérapage. Donc ça, c'est un petit peu de la...
Donc c'est politisation.
Ah ben oui, elle est politisée et lui ne peut plus rien faire en termes de dynamique parce que même si lui votait avec les conservateurs, avec les progressistes, elles sont trois, il serait quatre, il resterait cinq qui ont la majorité sans lui. Donc en tant que président de la Cour, il préfère se mettre avec les vainqueurs et voter avec eux. Ça c'est l'élément interne. Mais à l'externe, il faut savoir pourquoi on a ce type de juge à la Cour suprême. Et cela, c'est dû à l'organisation des conservateurs qui ont compris dès les années 70 que la Cour était trop à gauche, trop libérale, comme on dit aux États-Unis, que les facs de droit étaient trop libérales, les médias étaient trop libéraux, qu'il fallait faire quelque chose. Et ils ont injecté énormément d'argent, ils ont créé des groupes, des think tanks, et l'un d'entre eux, qui s'appelle Federalist Society, avait une mission: repérer des juristes conservateurs brillants et les placer à des endroits importants dans l'administration, dans les agences et dans les juridictions. Donc si on prend par exemple le Chief Justice, il a travaillé dans les administrations républicaines, ensuite il a été à la Cour d'appel du District of Columbia et hop, il a été élevé à la Cour suprême.
Néanmoins, Donald Trump est parti en guerre contre le fondateur de cette Federalist Society qui s'est mis à injurier sur les réseaux sociaux. Il faut bien dire que les réseaux sociaux correspondent au tempérament de Donald Trump et c'est sa tactique pour arroser, mitrailler sans arrêt l'opinion américaine et s'adresser à ses propres électeurs. Mais tout à coup, il a dit, mais il est affreux.
Léonard Néo,
quand je pense qu'on m'avait recommandé de m'appuyer sur eux pour choisir les juges.
C'est parce que dès qu'un des juges soit nommé par lui, mais surtout les trois nommés par lui, ne fait pas exactement ce qu'il veut, il s'en prend à la planète entière. Et c'est vrai que lorsqu'il a pu nommer ces trois juges, dont au moins un volait aux démocrates, soyons clairs, lorsqu'il a sélectionné ces juges, ça ne s'est pas fait au sein de la Maison-Blanche, avec un groupe de travail, comme d'habitude. Il a littéralement sous-traité cette sélection à la Federalist Society et à Léonard Léo, qui lui a présenté une dizaine de juges, a dit « Ceux-là, ne vous faites pas de soucis, ils ne vont pas évoluer, ils sont anti-régulation, anti-droit à l'avortement, en faveur d'un pouvoir exécutif fort, ne vous faites pas de soucis, vous pouvez les nommer, il ne se passera rien. » Et dès lors qu'un de ces juges bouge un tout petit peu le petit doigt, comme Barrett, qui est très procédurale et parfois elle fait respecter la procédure, immédiatement elle se fait traiter de suppôt de la gauche et tout, et par contre-coup, Léonard Léo est accusé de mal avoir conseillé le président Trump.
Et donc là, apparemment, il est hors jeu, le Léonard Léo. Maintenant, la clé des champs.
Oui, enfin, disons que lui, il veut carrément modifier la société dans son ensemble. Et en particulier, là, son centre d'intérêt sont les cours suprêmes des États. Parce qu'il y a beaucoup qui se joue au niveau des États. Et donc maintenant, il est en train de déverser ses campagnes de pub et ses millions de dollars, non plus vers la Cour suprême, mais vers les Cours suprêmes des États. Or, elles sont très importantes. On a eu deux exemples dans les deux dernières années où, grâce à une élection, une Cour a basculé à droite et une autre a basculé à gauche. Et ça, en termes de port d'armes et de droit à l'avortement, c'est vital.
Et celle qui a basculé à gauche, malgré l'intervention d'Elon Musk, qui avait acheté... À coup de...
Oui, quelques millions de dollars de publicité, etc. Oui.
Elisa.
Oui, juste rapidement, je voulais juste soutenir ce que disait Andésine à l'instant. Sur la confirmation des juges de la Cour suprême, il est désormais, depuis le changement de réglementation initié par Mitch McConnell il y a quelques années, il est désormais possible de confirmer des juges avec une majorité simple au Sénat, ce qui est un encouragement pour celui qui nomine à aller chercher des figures plus radicales, puisqu'il n'a pas besoin de chercher un compromis avec l'opposition pour pouvoir voir ces juges confirmés.
Et c'est ce que les démocrates, évidemment, n'ont plus les moyens de faire dans un certain nombre d'États. à partir de, sauf dans les États qu'il continue de contrôler.
Ah bah, les démocrates avaient eu, juste avant Mitch McConnell, la bonne idée de faire ça avec les juges fédéraux. C'est eux qui avaient ouvert le bal sous Obama parce qu'ils étaient bloqués systématiquement par les républicains pour pouvoir nommer leurs juges. Donc ils ont initié un changement de réglementation pour pouvoir confirmer ces juges à la majorité simple. Et ça, ça favorise la polarisation des institutions, puisque des figures de compromis plus modérées n'ont plus besoin d'être recherchées et on peut aller vers des profils plus radicaux.
Et donc là, politisation aussi effectuée par les démocrates quand ils étaient au pouvoir. C'est comme le redécoupage électoral que les deux grands partis, évidemment, pratiquent avec délectation chaque fois qu'il y a un recensement, c'est-à-dire tous les 10 ans. Florence Pisani, avec vous, on se souvient de cette image de Donald Trump montrant un tableau sur lequel il y avait une liste de pays, y compris un îlot peuplé uniquement de pingouins, mais voilà, ça devait être une erreur du tableau Excel. Et face à chaque pays, il y avait le pourcentage de droits de douane qui leur serait infligé. C'était ce qu'il a appelé le jour de la libération, le 2 avril. Et depuis, sur les réseaux sociaux toujours, le président des États-Unis dit « C'est l'âge d'or de l'Amérique, des trillions et des trillions de dollars sont engrangés chaque jour. » On en a... le secrétaire d'État au Trésor m'appelle et il me dit « Monsieur le Président, on ne sait plus où les mettre. » Et évidemment, on sourit. Parce que même chez nous, quel que soit l'état du débat sur notre budget, on n'imagine pas ce genre de discours. Néanmoins, c'est toute l'habileté aussi de Donald Trump de simplifier à l'excès le problème. À ce stade, est-ce que ces droits de douane ont véritablement rapporté beaucoup d'argent aux États-Unis avec l'idée qui est sans arrêt mise en avant de colmater la dette publique qui est énorme.
Alors ils commencent à rapporter pas mal d'argent, hein. On parle d'un point de PIB. Et donc si on regarde sur 10 ans, parce qu'on regarde le budget sur une dizaine d'années, ça fait au moins 3 000 milliards de dollars hein, qui vont rentrer dans les caisses de l'État américain, avec des allers-retours, parce que les droits de douane ne sont jamais stabilisés, on les monte, on recule, on les rebaisse, puis on les remonte, mais aujourd'hui on a quand même un point de PIB hein, de collecte de recettes liées aux droits de douane, et ça représente sur les 10 prochaines années 3 000 milliards de dollars. Donc c'est pas négligeable, ça va permettre en fait au déficit américain de rester à 6% de déficit sur les 10 prochaines années, et ça va lui éviter de croître. S'il n'y avait pas eu ces recettes budgétaires, le déficit se serait encore creusé, puisqu'il faut rappeler qu'entre-temps, il a fait passer sa grande et belle loi budgétaire qui dégrade fortement l'équilibre, hein, dans lequel il y a beaucoup plus de baisses d'impôts que de recettes budgétaires. Et donc, sans ces droits de douane, il aurait déséquilibré encore plus le déficit américain. Et ces droits de douane, depuis le début, hein, il faut comprendre qu'ils sont absolument nécessaires pour éviter une détérioration supplémentaire, mais on va rester sur les prochaines années avec 6 points de PIB de déficit, et donc une dette publique qui va continuer, hein, dont le poids rapporté au PIB va continuer à progresser fortement.
Mais évidemment, ils ont le dollar, et ils impriment le dollar, donc ça n'a pas tout à fait, comment dire, le même impact. Qu'un déficit public, que ce soit l'Italie ou
Ils
français.
Ont le dollar tant qu'il ne choque pas trop la confiance. Il faut se rappeler de ce qui s'était passé le 2 avril. Hein, on a quand même eu un décrochage du dollar. Et ils sont quand même dépendants de financements extérieurs. Hein, donc pour l'instant, ça ne pose pas de problème. On a un secrétaire au Trésor, Bessent, qui a quand même essayé de calmer un peu les choses, hein, et éviter que le dollar ne décroche trop brutalement. Et ils en ont besoin. Ils ont besoin, effectivement, d'attirer des financements extérieurs pour continuer à financer leur déficit public et leur déséquilibre courant. Hein, parce que le déséquilibre courant, pour l'instant, contrairement à ce que dit Donald Trump, malgré les droits de douane, il ne s'est pas réduit. Hein, on reste avec un déséquilibre courant qui est grand ouvert.
Mais ces droits de douane, qui les paie? Parce que ce qu'explique le président des États-Unis lui-même, il dit « Ah, ce sont les étrangers, ce sont les pays étrangers, les gouvernements étrangers qui payent. » Alors, c'est pas le cas.
C'est absolument pas le cas. Quand on regarde, en fait, les prix des exportations ont pas baissé. Donc c'est clairement à l'intérieur. Hein, c'est soit les entreprises américaines, soit les ménages qui vont payer les droits de douane. Donc c'est une taxe soit sur les entreprises, elles vont voir leur marge se réduire pour éviter que les prix ne montent trop, soit elles vont répercuter ces prix, ces hausses de droits de douane sur les prix, leur prix de vente, et les ménages vont payer leurs produits plus chers. Donc c'est très clairement payé à l'intérieur, en partie par les entreprises, en partie par les ménages. Alors pourquoi on n'a pas vu encore de très fortes hausses de l'inflation ? La raison, c'est que, un, il y a eu des importations avant les hausses de droits de douane, donc les entreprises ont constitué des stocks pour éviter d'avoir trop de hausses de droits de douane. Ça, c'est le premier élément qui fait qu'il y a eu un élément d'absorption des droits de douane avant qu'ils montent. Et puis le deuxième élément, c'est que ça va être répercuté, et ça prend un peu de temps, mais on commence à le voir. Si vous regardez les prix des biens importés, d'habitude les prix des biens importés baissent, les prix des biens en général aux États-Unis ont tendance à baisser, ils sont en train de monter. Et donc si vous regardez aujourd'hui, il y a 1,5 point d'inflation qui est lié de hausse de l'inflation supplémentaire qui est liée à la hausse des droits de douane qui vient d'avoir lieu.
Et le chiffre de l'inflation qui vient de sortir il y a quelques jours, c'est quoi ? C'est 3% ?
On est à 3% d'inflation, mais il n'y aurait pas eu les droits de douane, on serait à 2,5%. Donc il y a déjà 1,5 point de prélèvement sur les ménages, et on va encore avoir 0,5 point dans les mois qui viennent. Donc les ménages vont porter largement, une grosse partie de cette hausse des droits de douane va être payée par les ménages américains.
Agathe Demaret, vous venez de publier sur la plateforme de l'ECFR, donc le Conseil européen des relations internationales, un papier très intéressant et très fouillé sur ce que vous appelez les Trumpenomics. C'est pas très euphonique en français, ça sonne mieux évidemment en anglais, c'est normal. Et là, en fait, vous nous expliquez le décalage, en quelque sorte, entre les objectifs affichés par l'administration américaine et les résultats actuels de cette politique qui est d'abord une politique commerciale.
Oui, alors c'est vrai que si on s'attaque en fait aux objectifs de la politique commerciale de Trump, les Trumponomics, on se rend compte d'un véritable décalage entre les objectifs affichés, comme vous le dites, et les résultats. En fait, les objectifs affichés, vous l'avez mentionné, il y a la réduction de la dette, même si il y a des recettes fiscales avec les droits de douane. Je dirais que cet argument n'est pas tout à fait convaincant, parce que comme on vient de l'entendre, il y aura probablement une hausse de l'inflation, une baisse de la croissance américaine, et donc sur une base nette, les recettes fiscales des États-Unis sont quand même susceptibles de baisser. Donc cette première idée que les droits de douane vont être une recette magique pour limiter la dette publique américaine n'est pas tout à fait convaincante. L'autre idée qui est souvent avancée par Donald Trump, c'est l'idée des relocalisations d'entreprises qui se précipiteraient pour produire aux États-Unis avec des relocalisations massives. Et là aussi, en fait, ce n'est pas vraiment convaincant. On voit un décalage entre les volontés de la Maison-Blanche et la réalité, puisqu'on ne voit pas de relocalisation massive, on ne voit pas de projet d'entreprise qui dirait « fonçons aux États-Unis pour éviter les droits de douane ».
Mais pardon, Agathe, je vous interromps. On a vu quand même que Stellantis a annoncé 500 millions de dollars d'investissement aux États-Unis. On sait que LVMH fait de même. On sait que CMA-CGM investit massivement aussi dans toutes les infrastructures portuaires américaines. Et on a vu encore ces derniers jours, à chaque étape de la tournée asiatique de Donald Trump, l'une des conditions imposées à ses interlocuteurs, c'était « Bon, d'accord, je veux bien vous baisser un peu les droits, d'accord, vous êtes sympathique, je vous aime bien, mais vous allez investir X millions aux États-Unis. » Ça fait quand même partie, sans arrêt, du marchandage, du maître du deal.
Alors oui, de toute façon, il y a un marchandage permanent avec le maître du deal, mais je dirais qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première chose à prendre en compte, c'est est-ce que ces investissements n'auraient pas eu lieu si Trump n'avait pas été là ? Parce que ce n'est pas comme si on partait de zéro, ce n'est pas comme si les entreprises, les multinationales, n'avaient jamais eu de projet d'investissement aux États-Unis. Donc, après utiliser de leur part ces projets d'investissement pour amadouer Trump ou obtenir des concessions, c'est probablement très très logique. Et la deuxième chose, c'est que ces projets d'investissement ne vont pas se faire du jour au lendemain. Et c'est peut-être quelque chose que Trump ne prend pas tout le temps en compte, mais ces projets d'investissement vont prendre du temps. Et donc, les entreprises peuvent avoir tout intérêt à dire « nous allons investir des millions, des milliards », et ensuite, on verra effectivement sur la réalisation. Mais je serai quand même assez sceptique. Mais pour ce qui concerne les objectifs de la Maison-Blanche, je dirais qu'il y a deux objectifs avec ces tarifs douaniers qui, eux, semblent plus convaincants. La première idée, c'est évidemment résoudre le déficit commercial. C'est l'obsession de Trump avec des idées mercantilistes qui datent de sa jeunesse. Trump estime que le déficit commercial américain est un problème. Alors, c'est une aberration du point de vue économique, puisque le déficit commercial américain, qu'est-ce qu'il montre ? Il montre un excès d'investissement par rapport à l'épargne. Et également, on a pas de données qui permettent de démontrer que des tarifs douaniers pourraient permettre de résoudre le déficit commercial. Et l'autre objectif, probablement de la Maison-Blanche, et qui là est plus intéressant parce qu'il met vraiment l'Union européenne dans le viseur de l'administration Trump, c'est l'idée d'utiliser les droits de douane comme levier pour faire pression sur les alliés des États-Unis afin qu'ils adoptent des positions plus dures vis-à-vis de la Chine. Et là, évidemment, l'Union européenne est vraiment dans le viseur des Américains, puisque je dirais que l'Union européenne est la seule économie dans les pays du G7 à être encore un swing state, à ne pas avoir de position très ferme et très dure vis-à-vis de la Chine.
Anne Desine, venons-en à ce cas quand même très très singulier, qui est l'examen par la Cour suprême de la politique des tarifs, comme dit Donald Trump, en fait des droits de douane. Tarif en français n'a pas tout à fait la même signification. Et là, il pourrait s'agir, en fait, d'une décision illégale, non seulement parce que la compétence commerciale revient au Congrès, mais aussi parce que l'état d'urgence invoqué à l'époque est difficilement
justifiable.
Ouais. Donc, sur quoi va s'appuyer la Cour à partir de mercredi prochain ?
Alors déjà, la Cour a refusé de statuer dans l'urgence. Et donc l'administration Trump a fait une demande, un recours, s'appelle un certiorari, qui a été accepté début septembre. Et la programmation de cette audience, mercredi prochain, et audience dont on a appris qu'elle serait beaucoup plus longue que d'habitude. D'habitude, c'est une heure. Là, cela va durer deux heures. Et le Solicitor General, c'est-à-dire celui qui représente l'administration, va disposer de 40 minutes pour exprimer ses arguments. La position de Trump est à la fois juridique et peu défendable, mais surtout, il a mis sur ses réseaux sociaux tout un tas de choses en disant que si par hasard la Cour suprême statuait contre lui, c'était la fin de l'Amérique, la fin de ses trillions of dollars, des millions. Effectivement, on parle bien de 3000 milliards de dollars sur 10 ans. Et alors c'est intéressant parce que lorsque c'était l'administration Biden et que Biden a voulu prendre des décisions, la Cour suprême a invalidé ces décisions sur la base d'une doctrine jurisprudentielle qu'ils ont inventée il y a quelques années qui s'appelle « Major Question Doctrine », de la question importante, en disant « pour que le président puisse agir, il faut que le Congrès lui ait donné vraiment délégation très très précise, petit 1, et petit 2, il ne faut pas que l'acte envisagé est un impact trop grand sur l'économie. Si on pense à l'exemple de Biden, lorsqu'il a voulu effacer les dettes des étudiants, on parlait de sommes gigantesques, c'était 500 milliards. Là, on parle de 3000 milliards de dollars. Donc en fait, le rôle du Solicitor General et de l'administration, ça devait être de convaincre la Cour que il y avait bien une urgence et que ce n'est pas si aberrant de s'appuyer sur cette loi sur les pouvoirs d'urgence. Si ce n'est que, et la Cour de première instance, la Cour of International Trade, et la Cour d'appel ont bien dit « Non, non, ça ne va pas, elles se sont l'une et l'autre plongées dans l'historique de la loi, pourquoi la loi IEPA a été adoptée ?» C'était justement pour limiter les pouvoirs du président en matière de droits de douane par rapport à une autre loi existante. Et donc, la Cour devrait, si elle juge selon le droit, elle devrait dire que, comme la Cour d'appel, que c'est un abus de pouvoir par le président, sur la séparation des pouvoirs, et qu'il ne pouvait pas invoquer la loi. Si ce n'est que, on l'a vu récemment, la Cour a vraiment un système de deux poids, deux mesures. Elle dispose de toute une panoplie, la règle du précédent, elle devrait respecter ses propres précédents. Sa doctrine originaliste, la doctrine de Major Question. Donc, quand ça l'arrange, elle utilise ses petites doctrines favorites, mais quand ça lui pose problème, elle oublie les doctrines. Donc, il y a tout un tas d'experts qui disent qu'il est tout à fait possible, alors que c'est aberrant, que la Cour valide le recours par le président à cette loi, ce qui aura un impact en matière de droit de douane, mais aussi en matière de pouvoir du président. Cela veut dire qu'à l'avenir, le président peut faire n'importe quoi en matière de droit de douane, alors que cela relève de la compétence du Congrès.
C'est d'ailleurs ce qu'écrit Donald Trump régulièrement. Il dit « Je suis le président des États-Unis, je peux tout faire ». Et il semblerait que le secrétaire au Trésor, donc Scott Bessent, qui est un ancien de Soros d'ailleurs, ce qui n'est pas sans ironie, puisqu'on sait que le très âgé George Soros fait partie maintenant des ennemis de l'intérieur que l'administration Trump veut détruire d'une manière ou d'une autre. Mais Bessent a envoyé une lettre à la Cour suprême, semble-t-il, pour étayer la plaidoirie que va faire le représentant.
Oui, alors ça, c'est une arme procédurale. À la Cour suprême, il est possible à des individus ou des groupes, alors soit qu'ils sont partis au procès ou non. Alors Scott Bessent, c'est un petit peu bizarre parce que bon, c'est pas tout à fait lui qui est parti, mais bon, d'envoyer ce qu'on appelle une pétition amicus curiae, dans laquelle la personne ou le groupe développe une argumentation. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la fameuse Federalist Society, dont on parlait tout à l'heure, et tous les groupes qui font partie de la mouvance de la Federalist Society, ont préparé des amicus curiae en soutien à la position du président. Et donc, les juges doivent à la fois lire les conclusions, disons les briefs de l'administration, les briefs des défenseurs. Alors les défenseurs, soit ceux qui contestent ce recours, ce sont à la fois des entreprises qui expliquent que ça leur rend la vie impossible parce que ce qui est expliqué tout à l'heure, ils sont obligés d'augmenter leurs prix ou bien de terriblement réduire leurs marges. Et puis des États qui expliquent qu'ils ne peuvent plus fonctionner. Il y a des États limitrophes du Canada qui importaient beaucoup de bois, etc., dont l'économie est complètement bouleversée par ces droits de douane. Donc ça, ce sont les demandeurs, les requérants qui contestent la loi. Et ce qui est intéressant, c'est parmi les trois avocats, ils auront chacun 20 minutes, qui vont essayer de détruire la pseudo-argumentation de l'administration. Il y a un garçon très très bien qui s'appelle Neil Katyal, qui avait été le Solicitor General par intérim d'Obama. Pourquoi par intérim ? Parce qu'il est très progressiste et qu'Obama savait qu'il n'obtiendrait pas la confirmation par le Sénat.
Mais donc, on revient donc à cette politisation d'une institution qui, beaucoup plus que chez nous, me semble-t-il, aux États-Unis, Elisa Schell, était une institution sacrée. La Cour suprême, déjà, c'est cette architecture, ce rituel. Et on voit dans les sondages d'opinion que, le prestige de la Cour a beaucoup déchu. Depuis des années, d'ailleurs. Ça ne date pas seulement de Trump 2.
Oui, tout à fait. Il y a une désaffection généralisée pour les institutions qui grandissent, hein, ce qui fait d'ailleurs le terrain de candidats comme Donald Trump pour leur élection. Ouais. Ça, c'est évident. Mais ce qui est intéressant ce qui se passe au niveau de l'opinion en ce moment, c'est que selon les enquêtes les plus récentes auxquelles on peut accéder, on voit que 54% des Américains considèrent que Donald Trump instrumentalise la justice de manière générale. Alors vous me direz, bah oui, 54%, c'est la majorité. Mais ça veut dire qu'il y a aussi 46% de l'opinion qui n'en est pas convaincue et qui trouve à ses actions une forme de légitimité. Et c'est là où la figure de Donald Trump est particulièrement intéressante, c'est qu'il joue un rôle de bulldozer. Attention, c'est moi, je vais tout casser sur mon chemin. Mais il l'annonce et il en fait un spectacle. Et il sait qu'il va s'attirer des soutiens grâce à ça. Parce que les dirigeants autoritaires en Russie, en Chine, ils ne font pas ce grand spectacle de la puissance. Ils se contentent d'envoyer des dissidents en Sibérie ou je ne sais où. Et il n'y a pas tout ce spectacle. Donc si Donald Trump se met en spectacle dans ce rôle-là, c'est qu'il a une audience particulière. Et il y a, il est vrai, je le disais à l'instant, une défiance envers les institutions et notamment l'institution judiciaire réputée trop lente, les lois qui seraient injustes. On citait tout à l'heure des lois trop anciennes. Le système fédéral américain et le système des États est truffé de lois complètement datés qui peuvent permettre dans certains États, par exemple, de condamner pénalement des femmes à la prison parce qu'elles ont avorté ou cherché à avorter. Donc, on est dans un système où il y a des lois qui sont très anciennes et pas du tout mises à jour. Donc, dans cette espèce de capharnaüm, la justice peut apparaître comme politisée, injuste. Et qu'offre Donald Trump là-dessus ? Il offre le bon sens.
Voilà.
Et là, il a effectivement une audience particulière, puisque tous ceux qui sont contre les institutions, qui se disent « Ah ben oui, non mais de toute façon, c'est des gros en haut qui... »
C'est l'élite, ce sont les élites.
C'est les fameuses élites corrompues, donc là, on est en plein dans le réacteur populiste. Hein. Ce sont des élites corrompues qui, de toute façon, jouent contre nous, ils ne pensent qu'à s'engraisser. Voilà ce Donald Trump qui va faire justice et faire jouer le bon sens, la volonté du peuple contre les institutions. Donc on a vraiment deux conceptions de la démocratie qui s'opposent. La démocratie, la règle de droit, l'état de droit comme on dit en France, et puis la démocratie qui est la volonté populaire sans filtre, sans médiation, et c'est celle-là que Trump entend défendre.
Celle que Trump entend défendre et qu'il met en pratique. Parce que quand il poursuit en fait ses ennemis personnels, y compris un ancien patron du FBI qu'il avait lui-même nommé lors de son premier mandat, mais qui a eu l'audace à l'époque, lors de la campagne donc 2015-2016, comme il est nommé juste après, et il fait une enquête sur l'ingérence russe en faveur de Donald Trump et contre la candidate démocrate de l'époque, donc Hillary Clinton. Et comme maintenant, il est poursuivi par la par tout l'appareil judiciaire. Ce qui est sidérant, Elisa, c'est que le ministère de la Justice, d'abord, il est dirigé par une ancienne avocate de Donald Trump, qui était aussi une lobbyiste du Qatar. Donc, il y a un mélange des genres qui est assez sidérant. Mais, comme vous le dites, ça ne choque pas.
Le gros point d'interrogation dans le cas de James Comey, c'est la relation entre Trump et le régime de Vladimir Poutine. On l'a vu à travers effectivement ces représailles suite à l'enquête sur l'interférence électorale russe. On l'a vu aussi avec le dossier Epstein, c'est-à-dire ces révélations régulières qui sont faites concernant les liens entre Donald Trump et ce prédateur sexuel qui est Jeffrey Epstein. On se dit mais quelle est la source de ces informations, d'où ça vient, pourquoi Donald Trump se rallie quand même assez régulièrement, alors il a des allers-retours, hein, mais derrière la position russe. Ça, c'est quand même une énorme question qui pèse sur la démocratie américaine aujourd'hui.
Anne-Sie ?
Oui, pour James Comey, comme pour Laetitia James.
Alors, Laetitia James, qui est la procureure de l'État de New York.
Qui l'avait poursuivi pour fraude financière et obtenu sa condamnation, qui a été réduite en appel, mais bon, il est très très fâché contre elle. Ce qui est important de savoir, c'est que les charges sont tellement faibles que les procureurs de carrière ont refusé de procéder à l'inculpation de Comey et de Laetitia James. Et donc, il a limogé les procureurs et il a mis à la place une sorte de pantin qui est aussi une de ses anciennes avocates, qui est spécialiste du droit immobilier et de l'assurance, qui ne connaît absolument rien au droit pénal et qui a d'ailleurs été nommée dans des conditions qui sont aussi contestées en justice.
Par intérim.
Restons, voilà. Et donc, elle a procédé à l'inculpation. Aucun des autres procureurs du service a voulu signer, donc elle a signé toute seule comme une grande, et il y avait urgence à cause des délais de prescription. Si Comey n'était pas inculpé dans les 3 jours, ensuite, ce n'était plus possible, les délais tombaient. Et donc là, on a cette instrumentalisation des poursuites, et c'est intéressant parce que dans la Constitution, il est vrai que le ministère de la Justice appartient à la branche exécutive, à l'article 2, et Trump dit « je peux faire tout dans l'article 2 ». Mais la tradition toujours été que les poursuites étaient autonomes, indépendantes et que le président ne devait pas se mêler des poursuites. Nixon avait été tenté, mais ses proches l'en avaient dissuadé. Trump a été tenté durant le premier mandat. Là, les proches, les fameux adultes dans la pièce, ont réussi à le dissuader. Là, il n'a plus d'adultes dans la pièce, donc il fait ce qu'il veut. Il veut se venger. Il est plein de rancœur. Et c'est grave, et c'est d'autant plus grave que dans le même temps, il s'attaque au cabinet d'avocats, et il faut espérer qu'il va rester suffisamment d'avocats pour pouvoir défendre ces gens, qui en plus vont se ruiner, sauf s'ils peuvent être pris en charge par ce qu'on appelle les groupes d'intérêt public, qui vont les défendre pro bono. Donc là, il y a vraiment plusieurs attaques sur l'institution judiciaire. Il menace aussi les juges verbalement, il les menace de mise en accusation. Donc cette malheureuse institution judiciaire qui effectivement est très inégale aux États-Unis, elle ne traite pas de la même façon un criminel en col blanc et un noir qui a fumé un tout petit peu de ou qui a été arrêté dans des conditions spécieuses. Mais cette institution judiciaire, là, elle est attaquée de tous côtés par l'attitude du président. Et ces sbires reprennent les attaques. Et ainsi que le disait Elisa, finalement, les magas sont très contents qu'on attaque et les avocats et les juges et tous ces gens-là qui appartiennent pour eux à une élite progressiste, donc absolument infréquentable et dangereuse.
Florence Pisani, tout cela explique aussi l'indifférence de l'administration Trump au blocage de l'examen du budget, donc le Congrès est bloqué, donc il n'y a pas de... on va faire aucune comparaison avec ce qui se passe chez nous, tellement les systèmes sont différents. Néanmoins, il n'y a plus de budget fédéral. Et donc, on voit que c'est aussi une façon pour les idéologues les plus proches de Donald Trump de continuer une purge politique au sein même de la fonction publique au niveau fédéral. Mais ça veut dire aussi qu'il y a toutes sortes de dépenses, et notamment de dépenses de santé, qui sont bloquées, qui ne vont pas être payées.
Alors, il y a plusieurs enjeux. Il y a effectivement des fonctionnaires qui ont été licenciés, mais là encore, c'est illégal. Mais il outrepasse son droit, donc il continue à les licencier.
Ça, c'était quoi ? Musk et Doge ?
Non, c'est après, depuis le shutdown, donc la fermeture. Il y a une fermeture des services publics non essentiels. Il en a profité pour licencier une partie des fonctionnaires qui étaient en place de façon complètement illégale. Il y a ensuite le problème du paiement des fonctionnaires. Tous les fonctionnaires qui ne travaillent pas ne peuvent pas être payés. Et même ceux qui travaillent, normalement, ne reçoivent pas le paiement. Il a, là encore, contourné les budgets et essayé de trouver des fonds pour payer l'armée. A réussi à faire la première fois, mais à nouveau, va se poser la question de les payer à partir du 1er novembre. Et là, il n'y a plus de fonds.
Non, sinon qu'il y a un milliardaire, héritier Mellon. C'est comme si chez nous, Bernard Arnault payait la solde de l'armée française.
Voilà, mais ça suffit pas très longtemps, ça couvre pas complètement les dépenses, mais là aussi c'est un détournement complet. Et puis, dernier élément, il y a un certain nombre de dépenses sociales, et en particulier de bons alimentaires, qui vont s'arrêter. Et ça touche 42 millions d'Américains, c'est-à-dire un Américain sur 8 ne vont plus pouvoir toucher les bons alimentaires, parce que là, on n'a pas trouvé d'astuce dans le budget pour essayer de trouver des fonds et continuer à les payer.
Mais comment expliquer cette indifférence, d'ailleurs, du côté des Républicains que du côté des démocrates ?
Il n'est pas complètement indifférent, parce que plus le temps passe, plus d'abord c'est coûteux pour l'économie. On perd 0,1-0,2 points de PIB en rythme annuel toutes les semaines. On en est à la cinquième semaine, donc on vient de perdre 1,5 point de PIB. Donc ça, c'est pas très favorable pour lui. Et deuxième élément, il y a quand même un blocage complet, et il va falloir que on réouvre les services publics, parce que le transport aérien va plus fonctionner. On va manquer d'aiguilleurs du ciel. Il va y avoir un certain nombre de blocages qui vont commencer à gêner les Américains, et il va falloir trouver une solution et se mettre d'accord. Et le point d'achoppement, c'est qu'il y a un certain nombre de subventions de santé qui vont s'arrêter normalement en décembre, et que les démocrates voudraient que ces subventions se poursuivent pour permettre là aussi à une vingtaine de millions d'Américains de continuer à pouvoir payer leurs dépenses de santé. Ces subventions, c'est 100 dollars, 200 dollars, et puis parfois ça va jusqu'à 1000 dollars. Et sans ces subventions, les Américains en bas de l'échelle, s'il leur manque 100 dollars, ils ne pourront pas payer et s'assurer. C'est l'Obamacare, une partie de l'Obamacare, qui a fait que ces 20 millions ont pu s'assurer, qui risquent aujourd'hui de perdre leur assurance santé.
Et il faut toujours répéter, tellement nous sommes habitués, nous, quelles que soient les critiques que l'on profère à l'égard de notre système social, qu'aux États-Unis, il y a une grande majorité d'Américains qui n'ont pas de couverture, de couverture sociale. Agathe Demarais, dans la façon dont Donald Trump nous considère, nous autres Européens, on sait qu'il dit très volontiers que, un, il ne nous aime pas, que deux, nous sommes des profiteurs, que l'Union européenne a été conçue, je vais pas employer un mot aussi vulgaire un samedi matin sur France Culture, mais enfin en gros, oui, je vais le dire quand même. Oui, je peux pas dire le gros mot. Alors, d'accord, donc pour enquiquiner les États-Unis, et on se souvient de ces accords conclus sur l'un des golfs de Donald Trump en Écosse, c'était en juillet dernier, entre la présidente de la Commission européenne et le président américain. Cet accord a été fortement critiqué, souvent d'ailleurs sur un registre plus politique, me semble-t-il, que véritablement économique. Selon vous, quel impact a eu cet accord pour nos économies et pour le marché européen, qui reste le premier marché pour les exportations américaines?
Alors effectivement, l'accord a été très décrié en Europe, mais en fait plutôt en France et en Hongrie. Je dirais que la France et la Hongrie ont été les deux pays européens où l'accord a été décrié, et partout ailleurs, l'idée a été qu'on a limité les dégâts. Alors, comme vous le dites, hein, un accord décrié, et je crois que la Commission européenne a été un bouc émissaire facile, mais quand on regarde le détail de l'accord, je dirais qu'il y a trois paramètres à prendre en compte pour se dire, en tout cas de mon point de vue, que l'accord est probablement le moins mauvais qu'on pouvait espérer. D'une part, les droits de douane, effectivement 15% imposés sur les importations américaines en provenance de l'Union européenne. Comme on l'a discuté déjà dans l'émission, ce sont bien les entreprises américaines et les consommateurs américains qui vont payer ces droits de douane. Ce ne sont pas les exportateurs européens. Et après, la question était de savoir si on pouvait peut-être avoir des droits de douane moindres, en dessous de 15%, mais si Donald Trump est bien obsédé par le déficit commercial, comme cela semble être le cas, on pouvait imaginer qu'il était très difficile d'aller en dessous de 10-15%. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de grandes économies qui ont réussi à aller en dessous. Donc ça, c'est le premier paramètre à prendre en compte. En dessous de 15%, honnêtement, ce n'était pas très réaliste. Le deuxième paramètre à prendre en compte, justement, c'est ce qu'ont fait les autres pays. Et je crois qu'il y a des choses très intéressantes à regarder. Par exemple, dans l'accord commercial qui a été conclu entre les États-Unis et le Japon, on voit des clauses où le Japon, pour le coup, va dépenser de l'argent public japonais pour financer des entreprises américaines sur le sol américain. On n'a pas du tout ce type d'engagement côté européen. Donc là aussi, quelque part, on peut se consoler en se disant que d'autres pays n'ont certainement pas fait mieux. Et enfin, ce qui a, je crois, défrayé la chronique, sont les engagements européens de faire des investissements, d'importer des produits énergétiques américains, d'importer plus de matériel militaire américain. Si on regarde dans le détail, les 600 milliards d'investissements qui ont été promis par la Commission européenne sur le sol américain d'ici 2028, en fait, ce chiffre correspond exactement aux intentions d'investissement des entreprises privées européennes. Donc, ce n'est pas du tout la Commission européenne qui dit « on va mettre de l'argent public sur la table » ou « investir de l'argent européen aux États-Unis ». Ce sont bien les projets actuels existants des entreprises européennes sur le sol américain, sur lesquelles la Commission européenne n'a pas son mot à dire. Sur les fameuses importations de 750 milliards de produits énergétiques américains en Europe aussi d'ici 2028, alors là, il faut être clair, ça a très très peu de chances de se produire. Pourquoi ? Parce que les États-Unis aujourd'hui n'ont pas la capacité de le faire. Et enfin, pour ce qui concerne les importations de matériel américain, ça aussi, c'est un petit peu défrayé la chronique en France. La Commission européenne s'est simplement engagée, même si elle n'a pas vraiment de mandat pour le faire, est-ce que les importations européennes de matériel militaire américain augmentent sensiblement, on n'a pas de chiffres, ces prochaines années, mais ça, de toute façon, cela va se produire avec les projets de réarmement d'un certain nombre de pays européens, les États-Unis étant un fournisseur de matériel militaire de premier plan. Donc je crois que quand on met ces trois arguments bout à bout, on se rend compte que finalement, cet accord est probablement moins mauvais qu'on le croit, et du point de vue économique en tout cas, on a plutôt limité les dégâts.
Reste que le front des services est là. Les Européens sont quand même en très mauvaise posture. Nous sommes les premiers consommateurs des GAFAM, donc de toutes les technologies que seuls les géants américains sont capables de produire, avec cette accélération vertigineuse de l'intelligence artificielle et de ce financement, cette économie circulaire qui est en train de se mettre en place entre eux. Et là, Agathe, on peut s'attendre de la part de Donald Trump, qui déjà menace de s'en prendre aux réglementations de européennes, on peut s'attendre à une prochaine offensive, assez vite.
Oui, tout à fait. Oui, ça va être l'une des prochaines offensives de Donald Trump. En fait, si on regarde, je dirais qu'il va y avoir trois fronts dans les offensives à venir de Donald Trump. Et donc, on voit très clairement que tout ce qu'on a vu ces derniers mois n'est que le début. Le premier front, ça va être, comme vous le dites, la question des GAFAM, la question des régulations digitales européennes, par exemple pour le respect de la vie privée, la modération de certains contenus, le fait d'éviter les interférences, notamment autour des élections. Ça va être clairement un front. Mais de ce point de vue, en fait, là, c'est intéressant, c'est que les États-Unis ont un excédent commercial pour leurs exportations de services. Donc, ils auront du mal à argumenter d'un déficit commercial américain qu'il faudrait résoudre par le biais de tarifs. La situation est totalement inversée et quelque part, cela donne une certaine influence à l'Union européenne, parce que l'accès au marché européen de 500 millions de consommateurs de services digitaux est crucial pour les plateformes digitales américaines. Et ensuite, en termes d'autres fronts qui vont probablement s'ouvrir prochainement, on aura le front de l'investissement. On a quand même des projets de régulation des investissements du côté de la Maison-Blanche qui sont assez hallucinant, en fait, clairement. Si on lit la America First Investment Policy qui a été publiée il y a quelques mois par la Maison-Blanche souhaite ni plus ni moins que demander aux investisseurs, aux entreprises internationales qui veulent faire des investissements aux États-Unis, de faire un choix entre leurs investissements en Chine et leurs investissements aux États-Unis. Donc une forme de découplage dans le domaine des investissements. Et enfin, le troisième front, ça va être très certainement un front financier, avec les projets, notamment de Stephen Miran, qui est maintenant un membre du Conseil de la Réserve fédérale, d'essayer de forcer une dépréciation du dollar vis-à-vis des autres devises, notamment de l'euro. Et ça, évidemment, ça passerait l'Union européenne dans une position difficile, puisque une dépréciation du dollar veut dire une appréciation de l'euro, et donc une perte de compétitivité des exportations européennes, les exportations étant le moteur des économies européennes. Ça serait un scénario très difficile pour les économies européennes.
Florence Pisani, on en revient donc à cette question. Qui, aux États-Unis, bénéficie de ces rapports de force qui, évidemment, l'économie américaine reste la première du monde. Néanmoins, elle a des goulots d'étranglement. Les chiffres de l'emploi ne sont pas bons. Alors que l'un des mottos de Trump, c'est de dire... les étrangers, nos ennemis ou nos rivaux, etc., on les oblige à investir chez nous pour recréer de l'emploi américain. Et donc, en fait, quelle Amérique bénéficie de cette politique ?
Alors, en fait, on a clairement deux Amériques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en moyenne, on a une économie qui résiste bien, hein, qui croît encore. On a 2,5-3% de croissance de la demande intérieure, avec de l'investissement essentiellement en intelligence artificielle, hein, tout ce qui est lié au développement de l'intelligence artificielle. Le reste de l'investissement progresse peu, voire se contracte. Hein. Il n'y a plus de construction de murs d'usines, contrairement à ce qu'il y avait sous Biden. On avait des constructions de murs d'usines, on n'en a plus. Et deuxième élément, sur le marché de l'emploi, on n'a jamais eu une dichotomie aussi forte entre un investissement qui accélère et un marché de l'emploi qui, finalement, on a vu des créations d'emplois à l'arrêt. Hein. Et quand on regarde ces deux Amériques, il y a une partie hein, des ménages en haut de l'échelle des revenus qui bénéficient évidemment de la politique de Donald Trump. Ils détiennent d'abord l'essentiel des actifs financiers. Hein. Pour vous donner un chiffre, le 1% du haut a autant d'actifs financiers que les 80% du bas. Hein, donc ça donne une petite idée de la polarisation. Et sur les dernières années, avec la hausse de la bourse, le 1% du haut s'est fortement enrichi. Donc ils consomment, leur salaire monte et ils bénéficient en plus d'allègements fiscaux liés à la grande réforme budgétaire. Quand vous regardez les 10% du bas, ils sont dans une situation radicalement différente. Ils vont avoir un pouvoir d'achat qui va être amputé par la hausse des droits de douane. Ils vont arrêter, parce qu'on a durci les conditions d'accès aux bons alimentaires, donc ils vont recevoir moins de transferts de l'État fédéral. Ils ne bénéficient pas des nouvelles baisses d'impôts, parce que comme ils ne payent pas d'impôts, pas d'impôts sur les pourboires, ils n'en bénéficient pas. Donc ils n'ont pas ces avantages-là. Et au total, leur pouvoir d'achat va se contracter de 3-4%. Donc ceux-là vont continuer à souffrir. Et en plus, à partir de 2028, on va supprimer ou en tout cas durcir l'accès à Medicaid, qui est l'assurance santé pour les plus pauvres. Donc il y a clairement ces deux Amériques-là, une masse d'Américains, en fait les 50% du bas, qui vont souffrir, en particulier de la politique des droits de douane, et puis les 10-20% du haut, qui eux bénéficient de la politique de Donald Trump.
Elisa Hachel, ça nous amène, à, même s'il nous reste que quelques minutes, à évoquer l'élection à la mairie de New York qui a lieu mardi prochain et qui est une élection, au regard de ce que vient de nous expliquer Florence Pisani, qui est tout à fait singulière puisque, d'après les sondages, le favori pour remporter cette élection, la politique à New York a toujours été très très particulière, c'est donc un jeune homme de 34 ans qui s'appelle Zohran Mamdani, qui n'a jamais exercé la moindre responsabilité. Je crois qu'il était étudiant.
Il avait des responsabilités politiques locales, mais
voilà, mais pas modeste. Voilà.
Il a géré un bureau de 5 personnes.
Et alors lui, il est véritablement à la gauche d'un parti démocrate, et on sent bien que les caciques du parti démocrate, qui sont déjà quand même très très largement déboussolés depuis un an, ils sont tout aussi, embarrassés par l'essor de ce garçon.
Oui, tout à fait. Donc, la configuration à New York est la suivante, hein, rapidement. On a un maire sortant qui n'a fait qu'un mandat, qui est Eric Adams, qui est un maire noir, qui est un ancien capitaine de police du NYPD et qui a été inquiété pour des affaires de corruption et des liens crapuleux avec la Turquie.
Et blanchi par Donald Trump.
Blanchi par un juge à l'initiative de Donald Trump, moyennant l'application de mesures restrictives d'immigration à New York, qui a une politique d'asile la plus généreuse qui existe de tout le pays. Donc on a ce maire qui est sortant, qui a essayé de se représenter, qui a perdu. On a un autre démocrate aussi dans la course, gouverneur de New York, qui lui avait été inquiété pour des affaires de harcèlement sexuel. Et on a ce Mamdani qui représente la gauche anticapitaliste dans la capitale du capitalisme financier mondial et qui est pour l'instant un recours, le seul recours possible pour les démocrates s'ils ne veulent pas voter pour l'ancienne garde corrompue, pour le dire rapidement. Seul problème, Mamdani est un anticapitaliste, il promet beaucoup de redistribution, il est aussi très pro-palestinien avec un antisémitisme larvé, ce qui pose un gros problème à New York, qui est la ville la plus juive des États-Unis, et le vote juif va plutôt aller sur quoi à 60% selon les estimations. Et ce qu'on voit donc à New York, c'est la division du camp démocrate encouragé par Donald Trump, qui voit se dégager en tête la gauche anticapitaliste, mais dont on n'est pas sûr qu'elle puisse remplir ses promesses une fois arrivée au pouvoir, si tel était le cas.
Et donc une élection à suivre mardi prochain. Les élections américaines sont toujours évidemment palpitantes. Disons ça comme ça. Donc merci à vous quatre. Et j'étais ravie d'accueillir quatre dames expertes aussi distinguées. Donc Anne Desine, vous avez publié en octobre dernier au Presse universitaire de Nanterre « Les juges contre l'Amérique, la capture de la Cour suprême par la droite radicale ». Elisa Hachel, vous venez de publier un très bon livre aux éditions Odile Jacob, « La démocratie à l'épreuve du populisme ». Florence Pisani, vous avez coécrit avec Émile Gagnat une série de papiers sur la politique économique de Trump, c'était au printemps dernier, et on peut les lire sur le site de Candriam. Et Agathe, j'ai déjà parlé de votre dernier rapport, donc sur les Trumponomics et vos conseils aux autorités européennes pour essayer de tenir bon. Voilà la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, bien sûr, à la technique, Ludovic Auger, Théa Corler et Patricia Miura de la documentation de Radio France m'ont aidé à préparer cette émission. Et dans un instant, nous sommes samedi, voici les carnets de santé de Marina Carrère-Dancausse. Très bon week-end et à samedi prochain.